Divergence FM, l'interview.
Bonjour Serge Ragazaki.
Bonjour. Bonjour.
Alors, vous êtes le secrétaire départemental de l'Hérault, de la CGT. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la CGT, c'est qu'ils en font exprès, non ? C'est ça ? Alors, la CGT, c'est un grand syndicat, et vous représentez ce grand syndicat pour l'Hérault. Alors, dites-nous un peu, parce que dans toute cette période-là, que l'on traverse difficilement, on peut dire, où est-ce qu'on en est au point de vue syndical et des luttes syndicales, surtout ?
Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une recrudescence des mobilisations ce début 2021, du fait d'ailleurs que les promesses du gouvernement n'ont pas été tenues à la sortie du premier confinement. On a plusieurs phénomènes qui se juxtaposent. D'abord une crise sanitaire qui n'en finit plus, et puis une crise sociale qui a été amplifiée. Il faut savoir qu'aujourd'hui sur le département, on a plus de 2% d'augmentation du chômage, c'est-à-dire que toutes les personnes qui étaient en CDD, en intérim, en contrat précaire, c'est-à-dire plutôt les jeunes, plutôt les femmes, se sont retrouvées sans emploi. On a eu des mesures de chômage partiel extrêmement importantes. Les entreprises ont touché 100% d'aide de l'État. Les salariés, eux, ont vu leur salaire amputé de 16%.
83%, donc, oui, c'est ça.
On a une montée des mécontentements. D'autant que, par exemple, sur les questions liées à la crise sanitaire, les moyens ne sont toujours pas mis pour créer les postes qui manquent. Je pense évidemment, et c'est plus facile, à l'hôpital public, on pourrait créer 1000 emplois au CHU, mais je pense aussi aux EHPAD, où nous on revendique à ce qu'il y ait un salarié par personne accueillie en EHPAD, par résident. Donc ce serait 3000 emplois à créer. Et aujourd'hui, on a un gouvernement qui nous communique sur des aides qu'il délivre à des entreprises, mais en tout cas, pour l'instant, ce ne sont pas des aides qui permettent de faire face à la crise et de créer de l'emploi. Tout au contraire, l'actualité, c'est une actualité plutôt difficile pour Schneider Electric, puisque la fermeture du site est maintenant programmée à latte pour le mois de juin. Il faut savoir que cette entreprise n'a aucune difficulté financière, au contraire, son action connaît même une envolée historique. Et contrairement à ce qu'on nous a dit, l'heure n'est pas à la relocalisation. Là, il y a une partie de l'activité qui part en Inde.
Oui, alors Serge, vous savez, j'ai une quand même bonne nouvelle. Vous savez que les 1000 fortunes les plus importantes du monde ont augmenté leur fortune pendant la crise. Vous êtes content, j'espère quand même. Vous voyez qu'il y a des gens qui ne sont pas malheureux.
Bah, ça ne fait que confirmer ce qu'on dit à chaque fois. Oui. C'est-à-dire que lors de ces crises, nous on pose le problème de la crise pour qui ? Ce que nous on constate, c'est que les plus riches continuent de s'enrichir, le fossé des injustices sociales bien continue de s'agrandir, et finalement, ce sont les salariés, ce sont les jeunes, ce sont les retraités qui payent les frais de la crise. C'est à eux qu'on fait payer la crise. Pas aux plus riches, puisque bon, je n'ai pas entendu que, puisqu'il y a des fortunes qui continuent à croître, qu'on pose la question du retour de l'impôt sur la fortune. Je n'ai pas entendu qu'on allait contrôler les entreprises. On voit qu'il y en a un certain nombre aujourd'hui qui sont en train de supprimer des emplois.
Et qui profitent.
Les aides publiques.
Voilà, qui profitent.
Si on prend sur le site de Montpellier, on a IBM.
Oui.
Nous, on pense que la viabilité du site d'IBM est posée aujourd'hui, puisque c'est 200 emplois qui devraient être supprimés. Mais il y en a aussi une autre centaine dans un service qui sont menacés, ce qui veut dire qu'on passerait d'un effectif de 400 à 300 d'ici 2022. Et on constate, nous, que c'est la viabilité du site à Montpellier qui est menacée. Mais comme plusieurs sites en France qui sont menacés de fermeture, et là aussi, il y a de nouveau des délocalisations qui sont entreprises en direction de l'Inde, qui est aujourd'hui un pays qui est choyé par le patronat, tout simplement parce que le droit du travail est suspendu.
Et puis ils ont aussi une population très importante, c'est la deuxième population mondiale après la Chine, et puis surtout ils ont des jeunes très bien formés, il ne faut pas oublier ça, mais qui sont payés une misère. Il y a beaucoup d'ingénieurs, par exemple, informaticiens en Inde, par exemple.
Oui, donc c'est bien pour l'Inde.
oui, mais pour nous, moins.
Tout ce qu'on voudrait savoir, c'est comment le gouvernement répond à ses engagements, à savoir relocaliser de l'emploi en France, puisqu'on voit aujourd'hui que sur les deux exemples que je viens de citer, Schneider, IBM, eh bien, on est de nouveau face à, des, à de la délocalisation. Pire, dans le cynisme, on va proposer des postes de travail à Alès, à Schneider, pour ceux de Latte dont le site va fermer, à part qu'on vient d'apprendre la semaine dernière que là aussi, il y a de la charge de travail qui allait partir en direction du Maroc, c'est-à-dire qu'on on va inviter les salariés à aller travailler sur des sites qui ne sont absolument pas pérennes. Donc on a besoin, on le voit, d'un véritable changement de politique, et en tout cas à ce que les centaines de milliards qui sont mis d'argent public en direction des entreprises soient d'une part contrôlés, fassent l'objet de véritables obligations et de véritables contreparties en termes de salaire et d'emploi. Et puis on a le site d'Orchestra.
Oui, Orchestra, oui.
Bah oui, Maistre s'était engagé à conserver le dépôt de Saint-Onès. Il y avait 130 salariés, il y en a déjà plus que 100.
Orchestra, c'est une entreprise emblématique pour notre région. C'était quand même quelque chose d'extraordinaire. Au départ, c'est parti de pas grand-chose et puis ça s'est beaucoup développé. Mais hélas, on est à nouveau dans un nouveau cycle, là, on peut dire.
Oui, mais là, le site, de toute façon, dès l'offre de reprise, il ne faisait pas mystère que le site de Saint-Onès allait être sacrifié. Nous, on s'interroge sur le fait que le tribunal ait validé cette offre qui ne garantissait pas l'emploi sur Saint-Onès, puisqu'il y avait une offre mieux-disante qui était faite par les Saoudiens, qui, eux, permettaient de garantir les emplois autour de Saint-Onès, voire même de faire des investissements. Et le tribunal a préféré reprendre, laisser Maistre reprendre l'entreprise.
Lui-même.
Or, c'est lui qui l'avait coulé. Donc, aujourd'hui on est sur la perspective de la fermeture du site. Donc, je ne sais pas ce qui est emblématique, c'est sûrement emblématique de cette période où pour les puissants, tout est permis, c'est au bonheur des riches.
Voilà.
Et par contre, pour les salariés,
c'est dur.
Pour l'emploi qui se profile, et une augmentation de la précarité. D'ailleurs, tout le monde a noté une explosion de la pauvreté, de la précarité, y compris chez les retraités, qui font la queue dans les restos du cœur, qui vont chercher de l'aide au secours populaire, les retraités.
Et les étudiants aussi.
Les étudiants qui souffrent terriblement de la séquence. Donc voilà, ce sont les sujets qui nous alertent et font que nous appelons à une mobilisation le 4 février. Voilà, il y a des choses véritablement scandaleuses qui sont en train de se passer. Nous avons mené et nous allons continuer à mener une campagne sur les questions de la précarité énergétique. Sur le territoire de la métropole, après le premier confinement, on a connu 100 coupures jour. Donc nous voulons qu'il y ait des engagements qui soient pris et des arrêtés anti-coupures qui soient prononcés, qui soient votés par les villes et par la métropole. Parce qu'on ne peut pas supporter qu'aujourd'hui
on coupe le courant,
on soit dans un... Non, et puis qu'on soit dans une démarche où le gouvernement appuie une démarche de libéralisation complète du secteur de
l'énergie,
l'électricité et du gaz. Depuis qu'on a libéralisé le secteur, c'est plus 40% d'augmentation des tarifs de l'électricité, plus 60% d'augmentation du tarif du gaz pour les usagers et un service rendu aux usagers qui est en recul. Et donc, il faut prendre là aussi des mesures courageuses de progrès social. Je note d'ailleurs que dans l'actualité, une dame de 89 ans est décédée la semaine dernière et qu'elle vivait dans un appartement où il n'y avait plus d'électricité. Alors moi, le journaliste qui a écrit l'article s'interrogeait sur la cause du décès, est-ce que c'était lié à la coupure d'électricité. Moi, je pose la question d'une autre façon. Est-ce que c'est normal, en 2021, de laisser vivre des gens sans électricité et sans chauffage?
Oui.
Voilà. Et c'est par ce bout-là qu'on devrait prendre les questions.
Eh ben Serge, on arrive doucement à la fin de cette interview. Merci d'abord d'être revenu sur nos antennes. On vous aura...
Merci à vous.
Non, mais maintenant, très régulièrement, on va vous avoir. On a décidé quand même de vous ouvrir nos micros pour que vous donniez des nouvelles donc de ce qui se passe dans le monde du travail. Et puis, j'ai juste une petite question un peu humoristique. Vous n'êtes pas invité à Davos, vous, non? Parce que c'est actuellement... C'est le forum, il a commencé. C'est le forum virtuel de Davos. Il vous interroge pas, non, sur vous ne donnez pas vos idées.
Davos, non, je suis pas trop étonné. Par contre, moi, je regrette que depuis le début de ces crises, puisqu'il y a bien des crises, on ait si peu d'informations et d'invitations du préfet de l'Hérault.
Ah oui, là, c'est plus facile.
Il invite beaucoup le patronat. Il les informe, il les consulte. Par contre, les organisations syndicales de salariés, elles n'ont pas les mêmes égards. Et moi, je m'inquiète de la dérive autoritaire de ce gouvernement, de cette façon de pratiquer la décision. Alors il y a les lois de sécurité globale que nous combattons et sur lesquelles nous allons continuer à appeler à mobilisation, mais je trouve qu'il y a une façon générale de prendre des décisions dans le pays, sans concertation, sans discussion, et en tout cas sur les questions qui sont liées à l'emploi, et les questions sociales, il n'y a aucune information ni consultation des organisations syndicales de salariés. C'est quand même un peu unique. On a des choses à dire, en tout cas c'est nous qui représentons les salariés.
C'est vous.
Et quand on questionne, quand on interpelle, sur le site de Schneider, nous avons interpellé le préfet, le président de la métropole a interpellé le préfet et le ministre, il n'y a eu absolument aucune réponse. Nous sommes confrontés à une grave crise sanitaire, et on n'en a pas fini, à une amplification de la crise sociale et économique, et ça il va falloir prendre des mesures telles que la réduction du temps de travail, l'augmentation des salaires pour en terminer, mais aussi à une grave crise de la démocratie. Et moi j'appelle le représentant de l'État à tenir compte des acteurs que sont les syndicats et les associations.
Ben écoutez Serge, merci beaucoup encore une fois d'être sur notre antenne, et puis on se reverra dans très peu de temps, nous espérons. Enfin, et si on nous le permet, parce que je ne sais pas si on ne va pas nous refermer nos studios, hein, je ne sais pas. Bon allez Serge.
Il va falloir trouver des façons de faire. Il faut que la voix elle puisse continuer à être portée. On a besoin des radios, ouais. On a besoin des associations. On a besoin de pouvoir s'exprimer et de ramener un peu d'optimisme dans un moment de forte angoisse. Je crois que ça fait partie aussi pour le gouvernement des responsabilités qu'il devrait mettre en haut de sa liste, à savoir de permettre à ce qu'il puisse y avoir des expressions et de la culture dans cette année 2021.
Merci Serge, à bientôt.
Merci, à bientôt.